nous tournons une grande page, c'est-à-dire que je ne reviens plus sur cette question très importante de la première interrogation du TST. Nous y reviendrons, du reste. Mais je vois tout de suite, étant donné que ceci présuppose que nous avons réfléchi sur la structure de la vie de l'intelligence qui nous est donnée par les interrogations, nous nous posons tout de suite la question « En quoi est l'être ?» Ce sera très très rapide. Donc, ayez devant l'esprit et comprenez qu'on pourrait partir autrement, mais de fait, notre intelligence pour progresser interroge. L'idéaliste n'interroge plus, dit Merleau-Ponty. Et donc, nous voulons au contraire rester dans une perspective d'un dialogue permanent avec la réalité, et donc nous interrogeons. Il y a quelques grandes interrogations de l'intelligence, ceci est présupposé connu. En critique, on a vu le pourquoi de ces interrogations et la signification de ces interrogations. Après la première interrogation, qu'est-ce ? L'interrogation du TST, qui est première au sens très très fort. Nous y reviendrons sur cette première interrogation. La seconde interrogation, en quoi ? Et ceci vient du fait que lorsque vous regardez une réalité artistique, après avoir vu c'est une table, vous dites en quoi est cette table ? Ça c'est spontané. Regardez, vous voyez n'importe quoi, tiens en quoi ? Et puis vous le saisissez, ce qu'il y a de bon. Vous voyez, c'est la main qui dit là en quoi. Hein, on a besoin de ça. Quand on voit uniquement, on peut dire tiens, c'est extraordinaire. Mais c'est fait en quoi ? En quoi c'est fait ? Il faut essayer de saisir ce que représente cette interrogation. Bon, cette interrogation est évidemment une interrogation dont le manuel a un sens extraordinaire. La main du manuel, hein, il faut regarder la main du manuel, pas la main d'un intellectuel, parce que ça, c'est regarder l'œil d'un intellectuel, mais c'est le cyclope. Mais au fond, autrement, vous regardez la main de l'intellectuel. La main du manuel veut dire, la main du manuel, c'est il saisit les choses, il saisit l'outil. C'est beau de voir ça, du reste. Il faut le voir, parce que c'est important à saisir ce que ça représente. Quand je pose la question « En quoi ?» Si vous passez à toute vitesse, ça veut dire « Bon, ça n'a pas d'importance. » Il y a une interrogation de l'intelligence. Et cette interrogation de l'intelligence, ordinairement, s'est posée à partir donc des œuvres. C'est toujours là, du reste. C'est toujours la philosophie de l'art qui est première, hein, génétiquement, pour nous. Et c'est là où on distingue très très fort le point de vue de la matière et de la forme. Ça se fait même encore aujourd'hui. Quand vous faites une dissertation, on dit excellent pour la forme, nul pour la matière. On voit très bien ce que ça veut dire. Et vous mettez là deux choses tout à fait différentes. Et c'est du reste, faisons attention, hein, quand on est matière et forme, ça peut recouvrir des tas de formes, des tas de choses différentes. Hein. Mais c'est sûr que lorsque vous regardez une œuvre, vous voyez ce qu'elle est, c'est sa forme, ce qu'elle est, une table. En quoi est cette table ? C'est là où les deux interrogations du TST et en quoi prennent toute leur signification. L'interrogation reprend son très grand sens lorsque vous êtes en face de ce qui est mu. Ce qui est mu dans le monde naturel, vous voyez, l'œuvre, la réalité artificielle, la réalité naturelle, la phusis. Dans la phusis aussi, en quoi prend sa signification à partir du devenir ? En quoi est le mouvement ? Ça, c'est une très grosse question. Mais quand vous posez en quoi est le mouvement, vous voulez poser le sujet du mouvement. Quel est celui qui change ? Et vous rappliquez sur celui qui change, parce que en quoi est le mouvement ? Cherchez bien, c'est du souffle. En quoi est le mouvement ? Ça passe. Le fluxus. Alors, si vous ne prenez que le fluxus, vous ne voyez pas. Il n'y a pas dans quoi. Dès que vous regardez en quoi est le mouvement, c'est en quoi celui qui est mu. C'est très très curieux. Et c'est intéressant parce que ça fait revenir à l'aspect réaliste, existentiel du mouvement. Font la question en quoi celui qui est mu, ça prend une signification. Tandis que en quoi est le mouvement, en quoi est le fluxus. Si vous prenez le fluxus, hein, ce qui est mu, vous ne voyez pas du tout. Tandis que si vous regardez la réalité qui est mue, la réalité qui est mue, oui, c'est très vrai. En quoi est la réalité qui est mue? Alors c'est la phusis, et c'est la phusis capable d'être transformée, c'est-à-dire la phusis matière. Vous voyez, là nous avons ces deux grandes interrogations. L'œuvre, ce qui est mue. Vous pouvez multiplier ces interrogations dans l'ordre éthique. Vous voyez, pour un acte moral. En quoi un acte moral? C'est la matière sur laquelle s'exerce cet acte de force. C'est la matière sur laquelle s'exerce cet acte de tempérance. Et ainsi de suite. La matière en quoi se trouve réalisée? Bon. Cette interrogation existe. Elle est même très forte. Elle est très importante. Et je dirais, dans l'ordre de l'efficacité et dans l'ordre du travail, la question en quoi est quelque chose d'extrêmement important. Vous n'avez qu'à réaliser quand vous achetez quelque chose, quoi. D'ordre pratique, hein. En quoi j'ai fait, quoi. Parce que si c'est mauvais comme matière, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas, ça s'usera très très vite. Donc c'est de l'ordre de l'utile. Dans l'ordre de l'utile, la question en quoi est très importante. C'est primordial. Vous voyez, vous direz, oh oui, ça flatte les yeux, mais c'est de la camelote. Mais quand vous dites ça veut dire que vous avez dit la question de la détermination de la forme. Oui, ça flatte. C'est quelque chose qui flatte, mais ça ne tient pas. Oui, notre monde d'aujourd'hui est un monde qui télescope le en quoi. C'est extrêmement curieux, du reste. Vous voyez, si vous regardez profondément, hein, les vieilles grand-mères avaient un sens extraordinaire de ce que c'était que la matière. On réparait les vêtements parce que la matière tenait. Alors on pouvait remettre des pièces. Aujourd'hui, non, ça se fait plus. Il y a les télescopages de la matière. Parce que ça, c'est très net. C'est le fluxus. Tout doit changer. Il ne faut pas regarder en arrière, ça ne va plus. Ça fait partie de toute l'économie d'aujourd'hui. Hein. On télescope en quoi est fait la réalité. Peu importe, ça ne tiendra pas. On construit une maison pour 30 ans. C'est très curieux. Alors qu'avant, ce n'était pas pour ça. On construisait une maison pour être le lieu. Vous voyez, il y a un télescopage dans la culture d'aujourd'hui de en quoi. Ça, je crois qu'on peut le dire. C'est le télescopage dans notre monde aujourd'hui, au point de vue économique. Comme l'économie joue un rôle énorme, au point de vue de notre culture, de notre comportement, on peut dire que c'est quelque chose qui disparaît. Alors, on n'a plus qu'un jeu de relations. Le fluxus, c'est un jeu de relations. Et on n'a plus le en quoi. Bon, réfléchissez là-dessus. Hein. Vous pouvez écrire des pages et des pages sur en quoi. Pour essayer de comprendre l'interrogation. C'est important, nous devons nous arrêter aux interrogations. Nous devons réfléchir sur ce que représente cette exigence de l'intelligence qui veut connaître en profondeur une réalité. Et quand il s'agit de réalité sensible, connaître les choses en profondeur, c'est connaître leur matière. Ça, c'est évident. C'est la profondeur du monde physique. Je me pose la question en philosophie première, où je regarde ce qui est du point de vue de l'être. Alors, essayez de réfléchir là-dessus. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. En quoi ce qui est du point de vue de l'être? En quoi ce qui est du point de vue de l'être? Essayez de comprendre un tout petit peu. Mettez l'être dans votre main, si vous voulez, n'est-ce pas? Et puis saisissez-le. Si vous pouvez. Hein. Parce que je crois que vous ne pouvez pas le mettre dans votre main. C'est ça qui est difficile. C'est l'intelligence qui détecte ce qui est en tant qu'être. Nous l'avons dit. c'est l'intelligence qui seule, puisque je n'ai pas d'expérience au sens absolu de l'être, sauf le jugement d'existence. Le jugement d'existence, je saisis ceci est. Et j'ai mis en télescopage, oui, c'est juste l'inverse de la phénoménologie, la mise entre parenthèses du ceci pour être en pleine lumière. C'est juste l'inverse, la mise entre parenthèses du jugement d'existence pour que la forme apparaisse. Et bien là, je fais juste l'inverse. C'est intéressant, on dirait, parce que ça fait comprendre certaines perspectives. Nous avons vu et revu, nous avons insisté sur le jugement d'existence. L'intelligence seule saisit est dans le jugement d'existence. L'intelligence seule saisit est. Et je mets en pleine lumière être. Donc, je n'ai pas d'expérience immédiate de l'être. D'une certaine manière, j'ai l'expérience de son exister, mais non pas du ceci. Et au fond, c'est ce qui fait la très grande différence avec les catégories. Dans les catégories, j'expérimente la substance première, j'expérimente la substance première. Alors, en quoi est l'être ? Ah, mais c'est peut-être ça, c'est la substance première. C'est le sujet, voilà, voilà, nous avons. Donc, nous revenons aux catégories, et au fond, nous avons la substance première, ceci est. Je veux dire, nous avons dans la substance première, le ceci est, je mets en pleine lumière le ceci. Nous l'avions un peu télescopé, nous le remettons en lumière quand nous posons la question « En quoi est l'être ?»« En quoi ce qui est en tant qu'être » Puis-je dire ça ? Je le souligne parce que c'est, au fond, assez instinctif de dire ça. Je dirais, dans une philosophie à la manière du père Garrigou-Lagrange, du sens commun, vous voyez, ce serait dire, mais oui, dans le sens commun, c'est ça. « En quoi est l'être ?» Mais c'est la substance première, c'est le sujet. Ce que la scolastique tendra à faire, hein. Faut pas l'oublier, la scolastique tend à mettre le sujet, le suppos, parce que la scolastique est dépendante de la théologie, alors le sujet, le suppos, mais devient le sujet premier, voilà. En quoi, mais oui, c'est bien ça, c'est le sujet. C'est le sujet qui est de fait le point de vue de la matière de l'être. La matière de l'être m'est donnée dans le sujet. Là, au moins, j'ai quelque chose qui tient. Ça tient la route, le ceci. Tandis que la substance première est partie à partir du est, à partir de être. Alors, puis-je dire ça ? Au fond, c'est la position. Il y en a qui ont dit ça, hein, faut bien comprendre. Il y en a qui ont dit ça. Il y en a deux, surtout, il faut regarder historiquement. Averroès et Lénine. J'aime bien les mettre ensemble. Parce que Averroès et Lénine, tous les deux, du reste, là-dessus. Il y en a peut-être d'autres, c'est possible. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, c'est intéressant à voir. Ces deux-là l'ont dit, sûrement. Ces deux-là ont dit qu'il y a un principe propre matériel de l'être. Et au fond, c'est le sujet. C'est la substance première, c'est le sujet. Il y a, de fait, pour eux, un principe propre matériel de l'être. De l'être en tant qu'être, de ce qui est comme être. Vous voyez tout de suite les conséquences, hein? C'est ça qui est intéressant à voir. C'est que dans cette position, tout être est matériel. C'est pour ça que les stoïciens l'ont peut-être dit. Mais les stoïciens n'ont pas cherché la question. Les stoïciens sont peut-être les premiers, il faudrait mettre des stoïciens, Averroès et Lénine. Parce que pour les stoïciens, tout être est corporel. Hein? Faut pas l'oublier. Tout être est corporel. Parce que tout être est corporel, on peut dire, mais c'est parce que les stoïciens, eux, ne cherchent plus que le pos. Ils ne cherchent plus le tiesti. C'est le pos, c'est la manière dont l'être existe. Alors, dans la matière dont l'être existe, c'est vrai, c'est la substance première, tout de suite. La manière dont l'être existe, oui, c'est le sujet, c'est la substance première. Si je dis donc que le sujet, la substance première, et le principe propre, matériel, de ce qui est comme être, vous comprenez tout de suite la conséquence, tout être est matériel. Il ne peut pas y avoir un être séparé de la matière. Puisque la matière est un principe propre, essentiel de l'être. constitutive de l'être. Donc, nous, on est en présence, vous voyez, d'une question extrêmement importante au point de vue philosophique, puisque c'est d'essayer de comprendre comment mon intelligence, en saisissant ce qui est du point de vue de l'être, ne peut plus s'arrêter à une philosophie purement matérialiste. Et pourtant, je demeure dans le réalisme sans tomber dans l'idéalisme. Oui. Tellement facilement nous coupons de cette manière-là, nous séparons. Donc, l'idéalisme, c'est lié au spiritualisme. Tous les spirituels sont idéalistes. Et tous les réalistes sont matérialistes. Il y a une petite vision assez grosse, mais qui reste dans le fond. Qui reste dans le fond. Vous savez bien, c'est la fameuse chose de Léonard de Vinci. Platon regarde le ciel, Aristote regarde la terre. Le réaliste d'Aristote regarde la matière. Aristote a montré que la matière, c'était pas du non-être. Et en montrant que la matière n'était pas du non-être, donc il montre le réalisme, regarde la matière. Donc le réalisme, c'est la philosophie de la nature. Et la philosophie de la nature remplace assez facilement la métaphysique. La philosophie première. Alors à ce moment-là, je reste accroché à la matière. De la philosophie de la nature, je passe vers la philosophie première. Je passe de l'un à l'autre. Alors à ce moment-là, je fais cette coupe. L'idéalisme, ah oui, l'idéalisme, c'est le primat de la forme. C'est le primat de quelque chose qui est en dehors de la matière, qui est séparé de la matière. Oui, spiritualisme. Bien, cette coupe est fausse. Il faut arriver à comprendre que l'opposition matière et forme est une opposition qui est tout à fait légitime au niveau de l'œuvre d'art, du moins l'opposition, la distinction matière et forme est tout à fait légitime au niveau de l'œuvre, elle est tout à fait légitime au niveau de ce qui est mu, elle est tout à fait légitime au niveau de ce qui se meut, mais dès que je suis en présence de l'esprit et de l'être, cette distinction ne va plus. C'est ça qu'il faut saisir. Ça, il faut le saisir intellectuellement. C'est pas commode, parce que c'est quand même assez subtil. Ça, c'est assez gros. Hein. Dans le fond, si vous voyez, alors mettez ajouté idéalisme, spiritualisme, donc toute la philosophie bourgeoise. Vous voyez ? Et puis l'autre, matérialisme. Alors ça, vous voyez bien, on est passé d'Averroès à Lénine. Lénine, en commentant Aristote, Lénine montre que la matière est une cause propre de l'être. Oui. On est passé de la philosophie de la nature à la philosophie première. On a fait de la philosophie de la nature une philosophie première, tout simplement. Et on est resté devant le schème fusis matière, fusis forme. C'est pour ça que si vous restez uniquement en face de fusis matière et fusis forme, vous ne pouvez pas répondre à Averroès, vous ne pouvez pas répondre à Lénine. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut essayer de comprendre comment, de fait, la distinction matière et forme est une distinction tout à fait normale de notre monde physique. Mais dès que je pose la question au niveau philosophie première, ce qui est vu du point de vue de l'être, que je vois à partir de la réalité, à partir de moi-même, donc je touche, parce que c'est à partir de mes expériences, je vois que la première question qui se pose, qu'est-ce que c'est que l'être, s'identifie à la première question, qu'est-ce que c'est que l'ousia. Ça n'a l'air de rien, cette petite identification que fait Aristote. Qu'est-ce que c'est que l'être, qu'est-ce que c'est que l'ousia. Vous comprenez très bien que pour un matérialiste, je ne peux pas identifier qu'est-ce que c'est que l'être et qu'est-ce que c'est que l'ousia. C'est absolument impossible. Le danger, je vous l'ai dit, c'est ce que Gibson fait en identifiant l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, qu'est-ce que c'est que l'ousia. Il dit la métaphysique d'Aristote confond l'être et l'ousia. Vous voyez ? Donc à ce moment-là, il risque de maintenir la distinction matière et forme comme une distinction fondamentale à toute la philosophie d'Aristote. Il le dit.
c'est la grande distinction d'Aristote. Eh bien non, c'est pas la grande distinction d'Aristote. La grande distinction d'Aristote, c'est la matière et la forme au niveau du monde physique, mais il y a autre chose quand nous entrons en métaphysique. Alors essayons de comprendre, indépendamment d'Aristote. Si je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Nous avons découvert le point de vue de l'ousia, la substance, principe propre de ce qui est selon la forme. Et j'ai dit bien selon la forme, mais principe propre de ce qui est. Autrement dit, en découvrant l'ousia, nous découvrons l'ousia comme source de toutes les déterminations. Nous découvrons par le fait même que ce qui est premier au sens fort dans ce qui est vu de côté de l'être, c'est la source de toutes les déterminations. L'être est fondamentalement déterminé. Et je dis bien fondamentalement déterminé. Il n'y a pas de fondement indéterminé dans l'être. C'est extraordinaire, ça, du reste. Parce que l'être est premièrement ousia. Il est premièrement ousia. Vous voyez le langage des catégories comme il peut être équivoque. Puisque dans les catégories, on dit que la substance prise principalement et premièrement, c'est la substance première. Donc la substance sujet. C'est tout à fait normal au niveau des catégories. Donc au niveau de l'attribution. Mais ce n'est pas vrai au niveau philosophie première. Oui, mais c'est très délicat ce langage. Hein, et on comprend comment ce langage fait des équivoques hein, si on n'est pas très attentif. Puisque la substance première est considérée comme, de fait, la substance dit primordialement et premièrement. Alors à ce moment-là, le sujet est dit premièrement et primordialement. Et donc, on dira, et Aristote l'a dit, dans ces conditions-là, la matière et substance, elle est première, dans l'ordre de l'être. Ce qui est faux, parce que la matière implique une indétermination fondamentale et que ce qui est, en tant qu'être, est premièrement déterminé. Donc il faut comprendre que, découvrant l'ousia, nous découvrons que l'ousia est source de toutes les déterminations. Et donc que l'être est source de toutes les déterminations. Premièrement, l'être n'est pas source d'indétermination. L'être peut impliquer en raison de son imperfection des indéterminations, mais ce n'est pas en fonction de son être. Ce n'est pas l'être comme tel. C'est l'être selon une de ses modalités, qui est une modalité imparfaite. Il faut bien voir d'où vient l'indétermination. Ça ne vient pas de l'être. L'être comme tel n'est pas indéterminé. C'est très important de saisir ça. Il faut arriver à le saisir. Hein. Je vous donne une voie, il y en aurait d'autres qu'on pourrait prendre. Vous pourriez prendre par l'œuvre, uniquement par le point de vue de l'œuvre. Vous pourriez très bien prendre ça. Vous pourriez très bien comprendre que la matière est ordonnée à la forme et non pas la matière, et non pas la forme ordonnée à la matière. Hein. Vous pourriez très bien comprendre ça. Et ceci montre déjà que lorsque vous avez un être qui n'est qu'être, nécessairement, il est au-delà de la matière. Et ce serait déjà une première manière de regarder la chose. Donc il faut saisir que lorsque je découvre l'ousia, je découvre que ce qui est premier dans l'ordre de l'être, c'est la détermination. Par le fait même, il ne peut pas y avoir quelque chose d'autre qui soit premier dans l'être et qui soit foncièrement, radicalement indéterminé. Donc, la matière ne s'oppose pas à l'être, mais la matière n'est pas premièrement être. Voilà ce qu'il faut essayer de préciser et comprendre. Hein. La matière ne s'oppose pas à l'être, ce serait la vision de Platon. Il peut y avoir des êtres physiques qui existent, et il y en a, puisque je le suis. Il y a des êtres physiques qui existent, donc la matière ne s'oppose pas à l'être. Il ne faut pas considérer que tout ce qui est matériel en moi est contraire à l'être. C'est un anti-être. Ne faites pas de la matière un anti-être. N'est-ce pas ? Non, il ne faut pas faire de la matière un anti-être. Il faut faire de la matière comme quelque chose qui est de l'ordre de l'imperfection. Quelque chose qui est ordonné à l'être, mais qui n'est pas l'être. Si je saisis l'ousia, c'est pour ça que c'est si important de comprendre que cette interrogation vient après la première, et elle ne peut se résoudre que dans la lumière du caisse, et donc dans la lumière de l'ousia. C'est dans la lumière de l'ousia que je peux comprendre que cette interrogation « en quoi est l'être ?» n'a pas de réponse. Je ne peux jamais saisir le « en quoi est l'être ?» si ce n'est de comprendre « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Je résorbe cette interrogation à la première. Parce que l'ousia me fait comprendre que ce premier dans l'ordre de l'être est déterminé. Donc cette interrogation, elle doit être suspendue en métaphysique. La suspension de cette interrogation. Cette interrogation ne me fait pas entrer dans l'ordre de l'être. C'est très curieux, ça, vous voyez. Ça, c'est très intéressant au point de vue de la structure de l'intelligence par rapport à ce qui est. Parce que l'intelligence regarde en premier lieu les réalités physiques. L'intelligence, mon intelligence, en raison de mon conditionnement, saisit en premier lieu les réalités physiques, les réalités en mouvement. Et donc, en premier lieu, elle se structure à l'égard de ces réalités physiques, l'œuvre et ce qui est mu, ou le vivant. Et alors, parce qu'elle se structure à l'égard de ces réalités qui sont mues, l'intelligence essaie de cerner ces réalités par ses diverses interrogations. Le statut des interrogations de l'intelligence n'est donc pas propre à la philosophie première. Il est propre à la philosophie de l'art, à la philosophie à la philosophie de la nature, à la philosophie du vivant. Mais il n'est pas propre à la métaphysique. Alors vous allez dire, mais ça, alors c'est terrible. C'est terrible si, au fond, la structure des interrogations n'est pas propre à la philosophie première. Eh bien, il faut reconnaître que les interrogations regardent toutes les réalités que j'expérimente et que la philosophie première regarde à l'égard de ces réalités que j'expérimente quelque chose de premier, quelque chose de fondamental, quelque chose qui dépasse mon expérience coutumière. Mais c'est là où je saisis bien comment le point de vue de la philosophie première est quand même, dans la vie de l'intelligence, quelque chose d'ultime. C'est pas immédiat. Vous voyez. C'est là où je vois bien toute la différence qui existe entre une métaphysique et le point de vue du sens commun. Le sens commun à la manière de Descartes. Le sens commun à la manière du père Garrigou. Le sens commun regarde les réalités physiques. Le sens commun regarde l'œuvre. Mais le sens commun ne regarde pas l'être. Le sens commun au sens de Descartes, au sens du père Garrigou, pas au sens d'Aristote. Le sens commun ne regarde pas l'être. Et au sens d'Aristote aussi, puisque le sens commun reste sensible, reste au niveau sensible. Donc il ne regarde pas l'être. Seule l'intelligence, dans son jugement d'existence, atteint l'être. Et c'est à partir de là que nous devons redécouvrir une nouvelle structure de l'intelligence comme telle, qui n'est plus la même structure que l'intelligence dans sa philosophie ordinaire. L'importance de la philosophie première, il y a vraiment une nouvelle structure de la vie de l'intelligence. Oui, nous retrouvons ce que saint Thomas dit d'une façon si forte entre intellectus et ratio. L'interrogation en quoi regarde l'intelligence liée à la ratio. L'intelligence est liée au monde physique. Tandis que l'intelligence, recherchant ce qui est comme être, doit dépasser certaines structures propres à l'intelligence liées au sensible, liées au monde du devenir, liées au monde physique, pour entrer dans une intelligence qui veut aller jusqu'au bout des exigences de l'intelligence. Alors c'est là où l'intelligence comprend que l'interrogation en quoi il faut la laisser tomber. Il faut la laisser tomber, comprenez bien. Elle existe et elle restera toujours pour le monde de la philosophie de la nature, pour le monde de la philosophie du vivant, pour le monde de la philosophie de l'art. Elle existera toujours. Mais elle demande d'être dépassée pour la métaphysique. Elle ne me dit rien. Réfléchissez là-dessus. Si vous trouvez une solution, si vous êtes subitement illuminé en posant la question « En quoi ce qui est ?» et l'être, vous me le direz. C'est intéressant de voir ça. Il faut se poser la question, il faut se la poser loyalement. Il ne faut pas trop vous inquiéter là-dessus, parce que vous direz, en quoi est l'être, le papier, en quoi est l'être, oui, propriété, c'est en quoi? Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'être de ce papier, là? Alors, regardez-vous plus tôt, c'est mieux, c'est plus intéressant quand on regarde la feuille de papier. Alors, en quoi est l'être? Vous direz, mais mon corps, quand même, c'est mon être. Ben, si vous dites que votre corps, c'est votre être, est-ce que c'est ça, votre être? Non. Votre corps n'est pas ce qu'il y a de primordial dans votre être. C'est votre être, mais ce n'est pas ce qu'il y a de primordial. Vous cherchez les principes. Ne confondez pas le mode existentiel de votre être et les principes que nous cherchons. Ne confondons pas l'existentiel et l'existential. On pourrait dire, l'existentiel serait le contact direct descriptif que je peux faire. Je peux décrire mon corps. Je peux décrire ce que ça représente le monde physique. C'est de l'ordre de la description. C'est de l'ordre du mouvement. Mais si j'analyse, je vois que l'analyse est obligée de dépasser certains aspects immédiats pour saisir des principes. Et là, pas de principe propre au niveau de la matière, pour l'être, pour ce qui est en tant qu'être. Pas de principe propre. Donc, je laisse tomber cela. C'est important. Vous voyez, ça simplifie. Ce qui montre que la métaphysique est beaucoup plus simple que la philosophie de la nature. Dans la philosophie de la nature, la matière joue un rôle très important. En philosophie première, non. Donc, je laisse tomber. En quoi? Alors, nouvelle question, qui est importante à savoir, qui est plus difficile à bien saisir, mais qui est très importante, la troisième question. Quand je pose la question « En quoi ?», je peux poser maintenant « D'où vient l'être ?» D'où l'être? Est-ce qu'il y a une question? Ça, c'est très important, parce que vous allez me dire tout de suite, mais c'est évident qu'il y a une question. Le créateur, d'où vient l'être? Le créateur. Alors, est-ce que le créateur répond à la question d'où vient ce qui est en tant qu'être? C'est une très grosse question, ça. Et très importante. Et tout de suite, le croyant dit ça, vous voyez. Le croyant, quand il s'agit de la matière, le croyant dit « Ah oui, ça va très bien, ça m'allège. » Ça donne l'être un peu aérien, ça va très très bien. La matière appesantie, ça va. Ça, c'est spirituel, je comprends. Mais d'où vient? Mais c'est le créateur. Je pose tout de suite au créateur. Alors, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire qu'au plan métaphysique, au plan de l'analyse de la philosophie première de ce qui est en tant qu'être, en me posant la question d'où vient ce qui est en tant qu'être, je peux poser tout de suite le créateur. J'aurai donc, vous voyez, cette chose très intéressante, j'aurai donc ici une voie d'accès immédiate à l'absolu. Le créateur. À la cause première. Ce serait merveilleux, ça. Donc, troisième chapitre de la métaphysique, le premier, la découverte de l'ousia, en annexe, la qualité. Second chapitre de la métaphysique, en quoi? Oh, c'est très bien, on le nie, on met simplement une petite critique aux stoïciens, à Averroès et à Lénine. On leur dit, ils ont fait une grosse confusion. Ils ont fait une grosse confusion, ils ont confondu le devenir et l'être. Ils ont confondu, ils ont confondu le devenir et l'être. Ils ont fait de la philosophie de la nature une métaphysique.
Les stoïciens ont fait de la philosophie de la nature une métaphysique. Averroès a fait de la philosophie première, donc une philosophie de la nature, de même Lénine. Distinguons l'être et le devenir. Et dès que je distingue l'être et le devenir, et que je découvre l'ousia, je vois qu'il n'y a pas de principe propre de l'être qui est la matière. Troisième chapitre, d'où vient l'être ? Alors ça devient intéressant. D'où vient ce qui est en tant qu'être ? Est-ce que je peux poser tout de suite le créateur ? Eh bien, là aussi, je suis obligé de dire, si je réfléchis, je suis obligé de dire que lorsqu'il s'agit de cette interrogation par rapport à ce qui est en tant qu'être, je suis obligé de dire que je ne peux pas découvrir un principe propre de l'être, de ce qui est comme être, un principe propre donc au niveau de l'analyse métaphysique. Alors pourquoi ? Vous voyez, tous ceux qui l'ont fait là, hein, tous ceux qui l'ont fait, c'est l'ontologisme. Hein. L'ontologisme est ici. Et les ontologistes sont très nombreux depuis Descartes. L'ontologie s'est implantée depuis Descartes. Au fond, c'est cette espèce de désir qu'on a de saisir à partir de la réalité telle qu'elle m'est donnée, à partir de l'homme ou à partir de l'esprit, de saisir immédiatement la source. C'est très noble, vous voyez, si la perspective ici d'introduire la matière dans l'être était moins noble, la perspective de découvrir la création immédiatement à partir de ce qui est, c'est comme une noblesse de mon intelligence. Mon intelligence désire découvrir tout de suite son père. Vous comprenez ? Alors c'est l'appel vers le père. Et alors si en effet, je mets l'esprit avant l'être, parce que je crois que c'est ça, si je mets l'esprit avant l'être, dans l'ontologie c'est toujours l'esprit qui est avant l'être, c'est l'esprit qui mesure l'être, si je mets l'esprit avant l'être, c'est le cri de l'intelligence, de l'esprit qui désire découvrir immédiatement son origine, découvrir immédiatement son père. En réalité, c'est beaucoup plus la découverte du père que du créateur. C'est assez curieux du reste. Mais au fond, c'est ça, c'est la découverte immédiate du père. C'est le cri de l'enfant dans le désert. Prenez toutes les réalités que je vois qui sont autour de moi ne sont pas adéquates à mon esprit. Elles sont toutes matérielles. Et mon esprit est au-dessus de tout ça. Donc je les mesure. Donc je suis seul dans cet univers. Je désire découvrir mon père. Et dans l'ontologie, il y a ce désir. Je découvre que mon esprit possède en lui quelque chose d'infini. Il faut qu'il y ait un infini qui soit primordial et qui soit immédiate et qui comprend pourquoi il y a dans mon esprit l'infini. Il y a là quelque chose de très important à saisir pour nous, que de fait, il y a comme un appel, une nostalgie à découvrir immédiatement l'origine de ce qui est en tant qu'être. Je dis nostalgie qui provient de l'esprit, et quand je prends l'esprit, je peux prendre aussi bien l'amour, hein, vous comprenez bien, l'amour spirituel, quelque chose qui porte sur l'infini. J'ai la soif de découvrir immédiatement quelque chose qui n'est pas de cet univers, et qui soit l'origine de ce que je suis, dans ce qu'il y a de plus profond. Donc l'interrogation, d'où vient ce qui est en tant qu'être ? D'où vient ce qui est en tant qu'être ? Alors posez-vous la question, essayez de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez découvrir immédiatement, à partir de ce qui est, jugement d'existence, ayant découvert l'ousia, découvrir immédiatement l'origine de l'ousia ? Découvrir immédiatement l'origine de ce qui est vu du point de vue de l'être. Alors, je dis, pas de réponse. Le cri de l'enfant doit rester un cri d'enfant, en disant, du côté de l'esprit, je comprends très bien qu'il crie. Ça, c'est normal. Mais du côté de la réalité, il doit arriver à comprendre le point de vue de l'origine ne fait pas partie de l'analyse de ce qui est comme être. Donc, là encore, une mise entre parenthèses. Quand je dis une mise entre parenthèses, ça veut dire une attente. C'est bon, il y a une attente. Je ne peux pas donner tout de suite réponse. Exactement comme pour la matière. Le lien entre l'être et la matière, je l'ai déjà vu en regardant le pose Lousia, mais je ne l'ai pas donné complètement. Donc, il y a une attente. Et ici, je dis, il y a de nouveau une attente. Pourquoi ? Il y a de nouveau une attente. Pourquoi ne puis-je pas saisir directement, à partir de jugement d'existence, l'origine de ce qui est ? Ce serait tellement plus beau. Je dis l'ontologisme. Là, il faudrait regarder aussi dans la perspective du néoplatonisme. À cause de tout le point de vue de la cause exemplaire qui joue un rôle si important. Parce que dans l'ontologie, ça joue très très fort, ça. Elle reste que dans le néoplatonisme et l'ontologisme. L'ontologisme est né du néoplatonisme. Alors, il est intéressant de voir le lien entre les deux et de voir comment, de fait, il y a cette interrogation en regardant l'origine, puisque l'origine et la finalité se tiennent et se rencontrent dans la cause exemplaire. Alors comment, à partir de cette interrogation, on est tenté de poser tout de suite la solution? Alors, essayons de comprendre que lorsque je saisis en premier lieu la cause, le point de vue de l'origine, d'où vient cette interrogation? Faisons exactement comme pour la cause matérielle. Parce qu'autrement, on ne comprend pas bien l'interrogation. D'où vient cette interrogation? Lorsque vous êtes en présence d'une œuvre d'art, vous vous demandez d'où elle vient, d'où ça sort, cette table, d'où ça sort. Et quand on se pose cette question-là, il y a souvent une question toute simple, très utilitaire, pour voir d'où ça sort, voir un peu son origine et voir si de fait elle est de qualité et si je puis l'acheter. D'où ça sort? L'atelier, d'où ça sort? L'œuvre d'art. Ou bien au contraire, l'artiste qui l'a fait. D'où vient cette œuvre d'art? D'où vient cette icône? On veut savoir d'où ça vient. L'origine, c'est très important. La marque d'origine. La marque d'origine donne à la réalité une certaine qualité. Donc, c'est tout à fait normal, quand il s'agit d'une œuvre, de se poser d'où ça vient et de remonter à l'artiste. Je peux poser la même question en philosophie de la nature lorsque je me pose la question d'où vient ce mouvement ? D'où vient ce mouvement? Et quand je me pose la question d'où vient ce mouvement, je vois que le mouvement comme tel, tout ce qui est mu, implique nécessairement un moteur immobile. Extraordinaire. D'où vient tout ce qui est mu par un autre? Donc tout ce qui est mu par un autre, au terme, le moteur immobile. Donc je vois très bien la nécessité de cette cause, d'où ça vient. Alors, est-ce que je peux faire la même chose par rapport à ce qui est? J'ai toujours saisi l'origine à partir du devenir. C'est à partir du devenir que je me pose la question d'où ça vient. Tout ce qui est mu par un autre. Lorsque quelque chose se présente comme existant. À ce moment-là, il s'impose dans son acte d'être. La fameuse parole de Parménide, qui je crois ici est importante à rappeler, l'être ne peut pas être engendré. Il est inengendré. Il est inengendrable. Autrement, il ne serait pas ce qui est. Alors, pourquoi ce qui est vu du côté de l'être est inengendrable et inengendré? Parce que si, justement, il était engendrable et engendré,
je ne regarderai pas ce qui est comme être, je le regarderai comme devenir. Je le regarderai dans son pose, dans sa manière d'exister, mais non pas dans ce qu'il est. Or, justement, je suis parti de ce jugement d'existence comme distinct du ceci, comme au-delà du ceci, je retourne au ceci. Si, au contraire, je suis fidèle à regarder ce qui est en tant qu'être, et du point de vue de l'être, il est au-delà du devenir, il dépasse le devenir, il a quelque chose en lui qui est irréductible au devenir, et il est. Il s'impose comme être. Il s'impose tel qu'il est. Il est inengendré, inengendrable. Donc vous voyez, et ça nous y reviendrons demain, quelques instants, pas très longtemps, mais nous y reviendrons demain, c'est important de saisir ça. Le dépassement de ces deux interrogations. Parce que ces deux interrogations font partie de la structure de l'intelligence lié au sensible, de la structure de l'intelligence liée à la raison, et ne font pas partie de la structure de l'intelligence comme intelligence.